France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors bien sûr, depuis ce matin, vous le savez, Pierre-Henri est décédé, le grand papa de l'électroacoustique, le parrain sans vraiment le vouloir des DJ et de la techno s'en est allé cette nuit. Parmi sa musique, un brin compliqué, un tube bien sûr intitulé Psychorock, que tout le monde a déjà entendu, hein, qui a servi à de nombreuses publicités, de génériques par exemple, même comme le dessin animé Futurama, et avant tout à Maurice Béjart pour un ballet à Avignon, il y a pile 50 ans d'ailleurs au Festival d'Avignon. Psychérock, un morceau issu de l'œuvre Messe pour le temps présent. Et alors en cette époque où la laïcité est un sujet délicat, le service public radiophonique a-t-il pris un risque en diffusant Messe pour le temps présent? En tout cas, on s'interroge, voilà, on n'a pas pris parti, sachez-le, hein. Mais en tout cas, il faut que cette saison, ça se termine rapidement, puisque là, on commence à faire un peu n'importe quoi. Et eux, de paroisse, ils ne fréquentent que celle de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Paul Quignot de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir.
Également Cécilia Gabizon, bonsoir, vous êtes directrice de la Street School. Alors qu'est-ce que c'est que la Street School?
Alors la Street School, c'est une école de journalisme gratuite, de journalisme digital. Et en ce moment, on lance encore une nouvelle école sur la vidéo, les nouveaux contenus, les réseaux sociaux. C'est toujours gratuit. Et j'en profite pour dire que les candidatures, c'est en ce moment. Ça dure 4 mois, c'est intensif. Et après, on trouve du boulot.
D'accord. Et pour s'inscrire alors?
Pour s'inscrire sur le site Street School.
Voilà, tout simplement. Tout simplement. Également autour de cette table, Antoine Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et auteur. Et Henri Vernet, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Et ce soir, nous parlerons de la situation des migrants, d'état d'urgence, urgence également pour le Front National. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Ah, que voulez-vous? Les Français aiment la bagnole. Il faut adapter la ville à l'automobile. Oh bah oui, je vais me fumer une petite cigarette, un troisième paquet dans la journée. Ça peut pas faire de mal. C'est vrai que ces phrases prononcées par Georges Pompidou pourraient, vu d'aujourd'hui, faire apparaître le deuxième président de la Ve République comme un véritable punk. La cigarette coûte désormais une fortune et la voiture n'est plus en odeur de sainteté. Enfin, seulement certaines voitures. C'est en effet l'annonce la plus spectaculaire du plan climat présenté ce matin par Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a annoncé la fin de la vente des voitures essence et diesel d'ici 2040. Également, il souhaite lutter contre la précarité énergétique. Fin des permis d'exploitation pour le gaz et le pétrole. Bref, plein de petites choses qui ravissent les défenseurs de l'environnement, comme le directeur général du WWF France, Pascal Canfin.
Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça sort pas du chapeau de Nicolas Hulot. Il faut savoir que plusieurs pays ont déjà pris cet engagement, même pour des dates plus avancées, plus proches que la France. Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et même l'Inde, c'est en train de s'accélérer. Donc cet engagement de la France, eh bien, s'ancre dans cette dynamique internationale et contribue à faire de la France un leader sur ce sujet.
Voilà, Pascal Canfin, ce matin sur BFM. Alors, Henri Vernet, 2040, plus de voitures essence et diesel. C'est une sacrée annonce quand même, même si Emmanuel Macron n'avait pas répondu à la campagne.
Là, c'est une belle annonce. Oui, c'est carrément, c'est ambitieux. C'est ce qu'on appelle avoir, après tout, une vision de la société. C'est ce qu'on attend des politiques, mm-hmm. C'est d'avoir une vision sur ce qu'ils veulent faire de leur mandat. Alors là, 2040, ça va loin. Il fera pas 5 mandats, mais ne serait-ce que 2 peut-être pour mettre en œuvre un plan qui sera aussi ambitieux. Et puis surtout, il faut avoir les moyens de le faire. Parce que là, ce qui est frappant dans ce plan, il y a beaucoup de choses intéressantes. Bon, les voitures. Alors, ça manque quand même de précision. De quelle, vous l'avez dit vous-même, de quelle voiture parle-t-il? Est-ce que ça veut dire que les voitures hybrides, par exemple, qu'on voit assez couramment aujourd'hui. Est-ce que celles-là pourront rouler? Je veux dire, est-ce qu'elles seront pas concernées par le absolument ni essence ni diesel? On peut penser que oui. Non. Et en plus, les constructeurs français peuvent être performants sur ces catégories-là. Donc, il faut des précisions, mais c'est un plan qui est dans l'ensemble intéressant, qui est assez ambitieux. Simplement, il faut que l'État derrière y mette les moyens. Voilà. Il faut que les Français en soient d'accord. C'est amusant. Vous avez cité Pompidou. Et Pompidou, qui était vraiment l'anti-écolo par excellence, les voitures en berge à Paris, c'était le tout bagnole, etc. Mais ce qu'il disait pour justifier ça, il disait souvent Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Or, on le sait bien, l'écologie, souvent, elle est perçue comme contraignante, comme quelque chose, comme une série de normes, d'empêchements, etc. Et donc là, en effet, il faut bien la présenter. Il faut que Hulot, Macron, ils ont du boulot pour que cette ambition-là, eh bien, elle soit pas empêtrée une fois qu'on passera aux actes, aux règlements, aux lois, etc. et que les lobbies s'en mêleront.
Voilà, un travail pédagogique, Cécilia Gabizon, se souvient d'ailleurs quand, par exemple, Ségolène Royal et Anne Hidalgo s'étaient affrontées sur la circulation alternée. Ségolène Royal avait dit, moi, je suis contre l'écologie punitive. On sait que Nicolas Hulot est assez radical dans ses choix, c'est son combat de toute sa vie. Est-ce que là, en effet, il y a un travail aussi de pédagogie à faire auprès des Français?
Il l'a fait en annonçant une date très lointaine, c'est-à-dire ça va se produire en 2040. Quelque part, ça permet à tous, les individus, l'industrie, de se préparer. Puis en plus, c'est dans un horizon qu'on maîtrise pas trop près pour qu'on soit vraiment inquiet, qu'on se mobilise. Donc en gros, ça tue la contestation. Et par contre, ça permet la préparation, la mise en œuvre. L'industrie va produire les véhicules qui vont bien. Donc quelque part, moi, je trouve ça très malin. C'est peut-être, alors les écolos disent c'est trop tard, mais moi, je trouve ça très malin parce que ça fait accepter l'idée que on va le faire. Chacun va pouvoir se préparer. Et aujourd'hui, qui va se révolter contre quelque chose qui va se mettre en place en 2040?
Antoine Bonin.
Faut quand même dire ce qui est. C'est la très très grosse, très très bonne surprise de ce début de quinquennat. Parce que franchement, à lire son programme, à entendre ses meetings, à comprendre ses priorités, on pouvait pas du tout en sortir ça. Quand au départ, Nicolas Hulot, ça a été une prise de guerre extraordinaire, qui a un petit peu estomaqué tout le monde. Ça a été un premier signal. Ensuite, devant Trump, le soutien aux accords de Paris, pareil. Il revient avec le protocole mondial et il en rajoute une couche. Et là, les annonces concrètes, parce que on parle de la voiture, évidemment, c'est très impressionnant. Quand même plus de vente de voitures à essence diesel en 2040, mais les annonces, ça s'arrête pas là. Neutralité carbone.
Là,
on change véritablement si on y arrive, si on met les moyens, parce que évidemment, tout ça est conditionné. On en est aux annonces, donc on va pas bouder son plaisir, mais c'est un changement de société.
Alors, c'est ça, justement, Paul Quignon, c'est souvent que l'environnement est souvent sacrifié sur la soi-disant raison économique. Là, est-ce que finalement, Nicolas Hulot a vraiment, à votre avis, les moyens d'accomplir ce plan aujourd'hui très ambitieux, ou on va lui dire à un moment...
Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que le discours d'aujourd'hui et le plan qui a été présenté est un moment politique important. Après, sur la vraie question, ce qui est intéressant dans le plan, c'est que c'est pas mesure par mesure qu'il faut regarder l'histoire des bagnoles, l'histoire des logements, etc. Tout ça, individuellement, est très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la logique globale qui est derrière,
c'est ce qu'il veut,
sociétale, économique, industrielle, etc. Et c'est là où les choses vont commencer à devenir compliquées et où il va avoir vraiment besoin du soutien et de Macron et d'Edouard Philippe, c'est qu'il y a une logique interministérielle dans tous les sujets qu'il a abordés aujourd'hui. Et qu'on connaît la force d'inertie de l'administration française, des politiques, de ses confrères au gouvernement. Ça va pas être facile de faire ce qu'il a promis aujourd'hui. Il y a des gens, y compris peut-être au sein du gouvernement, on sait pas encore aujourd'hui, mais qui lui mettront des bâtons dans les roues. S'il n'a pas vraiment l'appui de Macron, je ne dis pas qu'il l'aura pas, mais c'est à mon avis, c'est l'enjeu majeur de ce qui a été annoncé aujourd'hui.
Alors on va continuer à en parler dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Des heures ce soir entre la police et des manifestants à Hambourg, où Donald Trump est arrivé pour un G20 sous haute tension en Allemagne. Le président américain profitera de ce sommet pour rencontrer le président russe. Ce sera leur premier tête-à-tête. Plusieurs sujets de crispation entre les deux hommes, mais également entre Trump et le reste des dirigeants présents en Allemagne. La fin de la vente des voitures à essence et à diesel d'ici 2040, c'est l'objectif très ambitieux que se fixe Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique dévoile son plan climat. Il pose comme priorité le respect de l'accord de Paris. Autre annonce, une prime destinée aux foyers les plus modestes pour acheter un véhicule plus propre. Après le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement dans son ensemble valide ce qui devrait être la dernière prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017. Après cette date, le président Macron a d'ores et déjà prévenu qu'il ne souhaitait pas le renouvellement des mesures d'exception mises en place le soir du 13 novembre 2015. La Cour pénale internationale accuse l'Afrique du Sud d'avoir manqué à ses obligations. Les autorités de Pretoria ont refusé d'arrêter le président soudanais alors qu'il était sur le sol sud-africain, Omar el-Béchir, poursuivi pour génocide au Darfour. Alerte météo dans 8 départements du centre-est de la France. Vigilance orange, canicule jusqu'à samedi matin dans l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. 7 autres départements sont sous surveillance en raison des risques d'orage. De l'Oise aux Ardennes en passant par le Pas-de-Calais.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce plan climat présenté par Nicolas Hulot ce matin, un plan très ambitieux, on l'a entendu. Alors il n'y a pas que l'arrêt des ventes des voitures à essence et diesel en 2040, soit dans 23 ans tout de même. Donc gardez bien vos voitures ou pas, ou vendez-les maintenant. En tout cas, Cécilia Gabizon, ce que disait Paul Quignot, c'est vrai, c'est sur les arbitrages. Après, voilà, tout ça s'est lancé. On l'a vu en effet que déjà, il y a eu une petite friction avec le ministre de l'Agriculture, en effet, sur ce pesticide tueur d'abeilles. On sait qu'il va y avoir un sommet de l'alimentation où il va être invité. Il n'a pas tellement la même vision que le ministre de l'Agriculture aussi là-dessus. Est-ce que ça va pas être compliqué? Ça va pas être à chaque fois un combat?
Si, mais moi je pense que la séquence politique a changé, c'est-à-dire l'opinion a changé. On disait, bah, voilà, aujourd'hui, l'opinion, regardez, en ce moment, soit c'est la canicule, soit vous êtes sous la canicule, soit vous êtes dans l'orage, quand vous nous écoutez, le dérèglement climatique est réel, il est perçu par les gens et ça les inquiète. C'est une des premières préoccupations qui sont remontées dans les enquêtes qu'a fait Macron. Pendant sa campagne, quand il faisait remonter ces fameux meuclés, il y avait plein de choses sur l'environnement.
Donc, on l'a pourtant peu entendu dessus. Il a
alors,
parlé,
à mon avis, il a été assez tactique parce que c'est un sujet, je ferai cette supposition, il a été tactique parce que c'est un sujet qui reste difficile. Alors, c'est un sujet de consensus quand c'est pas pour soi. En gros, dans le jardin des voisins, c'est bien, mais pas dans mon jardin. Mais c'est ce qu'on voit à Paris avec les voies sur berge, etc. Mais la séquence aujourd'hui dans l'opinion sur l'environnement a complètement changé. Il y a une ouverture au fait de se mobiliser. Il y a une réalité de l'inquiétude. Et je pense que Macron va pouvoir jouer de ça. Et puis, il y a une autre chose. Économiquement, la nouvelle économie a tout à gagner de cette transition
écologique. Ça fait partie du plan, la finance verte, d'ailleurs, le nom est en Henri Vernet, il peut en tirer justement des avantages politiques, Emmanuel Macron?
Ah bah, oui, certainement, parce qu'encore une fois, l'écologie, globalement, tout le monde adhère. Hein. Simplement, il faut savoir combien
c'est
ça
nouveau.
Va vous coûter. Et oui, c'est nouveau, mais justement, pour les raisons que vous avez dit, hein, sur la perception, c'est palpable aujourd'hui les conséquences néfastes du dérèglement. Non, quand même, ce qui est difficile, c'est outre les arbitrages entre ministres, bien sûr, ça existe, hein, chaque ministre représente un petit peu une chapelle malgré tout. Il est quand même soumis à lui aussi à ses propres lobbies, etc. Tout cela compte, mais c'est également l'État lui-même. Par exemple, écoutez, nous dans Le Parisien de demain, on consacre notre une à ce sujet-là et on révèle un rapport sénatorial, un sénateur qui a travaillé, qui a penché sur la pollution de l'air. On sait que en termes humains, santé et financiers, c'est énorme les dégâts qui sont provoqués par cela. Eh bien bon, ça fait longtemps parce que il y a eu le Grenelle de l'environnement quand même, il y a eu tout ça, il y a eu le travail aussi de
Ségolène
Royal. Bref, il y a beaucoup de choses. Eh bien, ce que révèle ce rapport, c'est que l'État qui était censé aider. Par exemple, il avait lancé des plans pour des zones sans voiture dans les métropoles. La métropole de Lille, par exemple, est candidate. L'État lui dit « Ok, très bien, zone sans bagnole, allez, on participera à 1 million ». Eh bien, quelques années plus tard, Lille n'a reçu que 100 000 euros. Et ça, c'est classique. C'est un exemple pour vous montrer que l'État ne suit pas. C'est-à-dire que l'État est souvent très beau parleur, mais que quand il faut y aller, plus encore une fois, avec les réticences d'intérêts industriels qui n'ont pas intérêt à ce que tout aille si vite, eh bien, il faudra en effet juger concrètement de ce que tout ça, comment tout ça évoluera.
Antoine Bonneau.
Vous parliez, vous posiez la question des dividendes politiques. Il pouvait en tirer Macron. Macron, il est avant tout pragmatique. Et il nous a donné une leçon qui me semble assez extraordinaire. C'est que peut-être qu'on gagne pas une élection présidentielle en parlant d'écologie, mais peut-être aussi qu'on réussit un quinquennat en faisant de l'écologie.
Alors, Paul Quignot, juste une chose, parce qu'on passera ensuite à un autre sujet, mais il y a une chose, finalement, Nicolas Hulot, on l'attendait peut-être aussi sur une chose, c'était sur le nucléaire. Là, sur le nucléaire, finalement, il continue à suivre ce que préconisait François Hollande, c'est-à-dire 50% en moins. Il n'a pas donné les noms des centrales qui avaient fermé. Là, on sent quand même que là-dessus, là, on avance doucement et avec prudence.
Oui, on avance doucement avec prudence, mais ça peut se comprendre d'abord par la position, à mon avis, du premier ministre, qui est plutôt favorable à l'énergie nucléaire. En même temps, le cap, il a été fixé, il n'a pas changé. Donc, sur ce sujet-là, il n'y avait pas de nouveauté à attendre. Déjà, si on arrive à faire ce qui a été dit par Hollande et qui a été repris par Macron, ça sera déjà pas mal. Il y a une chose importante qui a été dit, je trouve, je pense que c'est une vraie chance pour Hulot. C'est que je pense que Macron a compris que sur ce sujet-là, économiquement, c'était bien, c'était intéressant et que la France avait à y gagner. Et que c'est peut-être ça qui va faire bouger les curseurs par rapport à ses prédécesseurs qui avaient des schémas en tête un peu plus anciens sur la France industrielle qu'on connaît. Macron a compris ça. À mon avis, c'est la vraie chance de Hulot.
C'est aussi là où il veut placer la France dans la nouvelle économie. Plein de pays sont, nous, on a les coûts cachés de la pollution, de cette économie lourde, etc. Alors que dans cette nouvelle économie, sur le green, sur les biotech, en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que cette transition, aujourd'hui, on peut prendre des positions qui vont être intéressantes et qui vont nous garantir aussi, nous ouvrir des marchés.
Juste une dernière question.
Je voulais juste rappeler que passer de 72% aujourd'hui à 50%, ouais, c'est déjà énorme.
Hein, ah oui, du nucléaire. Oui, mais sans être avancé pendant le quinquennat précédent, malgré les promesses.
On a baissé de 3% en 7 ans.
Oui, mais justement, ce qui est très très peu. Encore une fois, attention aux contradictions, attention aux inerties. Par exemple, là, il y a beaucoup parlé ce matin du renouvelable, mais la France a flingué elle-même sa propre filière du photovoltaïque. Elle l'a laissé à l'étranger, enfin, elle l'a laissé notamment à la Chine. Donc, attention aux contradictions. Et également, quand je parlais tout à l'heure des financements de l'État qui doit être là, c'est que les fameuses primes pour changer les voitures anciennes, etc. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que ça marche pour les voitures électriques, un petit peu aller pour caricaturer, pour les bobos urbains, pour les bobos parisiens qui s'achètent du tout électrique. Mais ceux qui ont des vieilles voitures diesel, etc., qui veulent les changer, ben eux, la prime n'est pas suffisamment incitative. Et donc,
surtout si vous êtes installé finalement assez loin d'un centre-ville,
évidemment. C'est en ça qu'il faut que l'écologie elle soit pour tout le monde, y compris les plus modestes.
Oui, c'est ça, Guillaume.
Il y a des nouvelles solutions pour les voitures, notamment les toits solaires. C'est-à-dire que on avance à mesure en fait que se développe le secteur, on trouve aussi des solutions qui le rendent plus viable. C'est intéressant de voir ça. Mais aussi à propos de Macron, de sa séquence politique, c'est aussi Trump quelque part avec les accords de Paris. Macron, ce jour-là, il venait d'être élu, il a fait ce discours qui a été un discours qui a été extrêmement bien perçu par les Français et par le reste du monde. Je pense que lui, il a pris aussi toute la mesure de la position internationale qu'il pouvait prendre sur ce sujet et que c'est pas indifférent dans le soutien qu'il va apporter à Hulot. C'est mon optimisme qui fait.
Mais je vois ça, Antoine.
Juste une chose, allez-y. Neutralité carbone, ça veut dire nucléaire.
C'est ça. Donc, Paul Quignot.
Oui, juste pour apporter un petit bémol, parce que là, on est tous hyper enthousiastes à juste titre. Faudra faire attention à la déception. Si jamais il y a des choses qui n'avancent pas. Et deuxième chose, Hulot est aussi quand même un drôle d'oiseau politique.
Oui.
Il peut aussi leur péter dans les mains à la moindre contrariété.
On l'a vu justement sur ce pesticide tueur d'abeilles. Le Premier ministre a tout de suite réagi parce que je crois qu'il avait peur justement.
Ils ont la trouille. Ils savent que c'est pas un animal facile à maîtriser.
Une dernière chose à propos de ça, Henri Vernet, c'est est-ce que c'est possible d'engager finalement un plan si ambitieux aujourd'hui pour un pays sans que le reste de l'Europe avance avec nous là-dessus.
Non, mais le fait est que l'Europe fait des choses. C'était rappelé d'ailleurs par Canfin tout à l'heure qui s'exprimait sur votre antenne. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont déjà des objectifs, notamment en termes de type de voiture, etc., qui sont assez ambitieux.
C'est pas les plus puissants. C'est ni l'Allemagne ni la.
Non, alors ça c'est vrai. Notamment sur le carbone, etc. L'Allemagne, quand elle a renoncé au nucléaire, bien évidemment, a davantage utilisé ses centrales thermiques, etc. Donc le charbon. Donc c'est vrai qu'il faudrait harmoniser. D'autant plus que c'est vraiment s'il y a un terrain sur lequel l'Europe politique pourrait se faire, c'est-à-dire avoir une action politique, c'est vraiment celui-là. Donc voilà, ça devrait être, puisqu'on parle tellement maintenant du retour Macron-Merkel qu'ils ont envie de travailler ensemble, ben voilà le terrain sur lequel ils devraient œuvrer volontairement.
Allez, on va parler de politique dans un instant et de ce qui se passe au Front National, qui est une formation politique, elle aussi qui n'est pas épargnée par le chamboule-tout actuellement que connaît ce magnifique paysage politique français. L'info à 20h20, Pierre-Yves Bonneau.
Le jour de carence pour les arrêts maladie bientôt rétabli dans la fonction publique, annonce ce soir du ministre de l'Action et des Comptes publics lors des états généraux des comptes de la Nation. Le jour de carence avait été abrogé en 2013 pour les agents publics, mais selon Gérard Darmanin, cette journée de maladie non payée permet de lutter contre le micro-absentéisme au travail. Elle proteste contre ces conditions de détention. Muriel Boll, mise en examen pour enlèvement suivi de la mort du jeune Grégory Villemain en 1984. Elle a débuté une grève de la faim pour clamer son innocence, selon l'un de ses avocats. Son maintien en détention à la maison d'arrêt de Dijon a été ordonné mardi. Placée à l'isolement, Muriel Boll dit vivre un calvaire. Un chiffre dans l'actualité ce soir, 224, c'est le nombre de civils tués par des raids aériens de la coalition à Raqqa depuis le 6 juin en Syrie. Il y a un mois, jour pour jour, les forces soutenues par les États-Unis et la France entraient dans ce fief de l'organisation État islamique. 224 victimes civiles, dont 38 enfants et 28 femmes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis, 8 voyageurs blessés dans le métro à Paris cet après-midi à la station Marquet des Poissonniers. Des câbles de chantier ont chuté accidentellement sur le quai. Selon les informations que France Info a pu recueillir, les blessés souffrent de simples contusions. Ils ont été pris en charge par les pompiers. La station Marcadet-Poissonnier sur la ligne 4 sera fermée toute la soirée.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Paul Quinio de l'Obs, également la directrice de la Street School, hein, Cécilia Gabizon, Antoine Bueno, écrivain et auteur de Son État, et Henri Vernet du Parisien, aujourd'hui en France. Dans le monde politique et médiatique, il y a une rumeur en ce moment persistante, hein, qui flotte comme le brouillard au large des côtes. Le Front National va-t-il changer de nom à la rentrée? Alors on ne sait pas quel nom sera choisi, on ne sait pas si ce sera En Marche avec Marine l'insoumise des Républicains démocrates nationales, ou tout simplement Bisou, puisque le FN a décidé d'être consensuel. Derrière ce débat se cache une discussion plus lourde et fondamentale pour le parti d'extrême droite. Faut-il ou non abandonner l'euro? C'est désormais la ligne de fracture, puisque nombreux sont ceux à accuser ce thème responsable de la défaite de Marine Le Pen au présidentiel. La sortie de l'euro, c'est l'idée de Florian Philippot, et pour lui, eh bien, il n'y a aucun problème, Florian Philippot.
La sortie de l'euro ne sera pas abandonnée. Elle ne le sera pas parce que ça a été rappelé par Marine Le Pen lors de notre dernier bureau politique il y a à peine une semaine, où elle a rappelé que nous étions tous favorables à la souveraineté monétaire, tous contre l'euro et tous pour une monnaie nationale, je la cite précisément dans ces mots.
Vous serez encore au Front National à la rentrée?
Ah oui, je serai au Front National à la rentrée, ça c'est sans aucun doute.
Voilà, enfin, Philippot, sur LCI, aujourd'hui, Paul Quinio, Marine Le Pen veut tout changer dans son parti, mais l'euro, ça reste quand même la question la plus polémique quand même.
C'est la question la plus polémique, et en même temps, je ne sais pas si c'est la vraie question pour le Front National, parce que on dit, voilà, que c'est, enfin, certains disent au Front National que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. J'en suis pas si sûr, parce que c'était un thème porteur, c'est pour le Front National avant. Ça l'a été d'une certaine manière pour Mélenchon. Donc je trouve que là, il y a une petite contradiction. En exagérant un peu, je me demande si c'est pas un cache-sexe pour ne pas parler d'autre chose. Et, parce que la vraie raison de la défaite du Front National, c'est la performance calamiteuse de Marine Le Pen lors du débat. C'est pour ça que ça va mal aujourd'hui au Front National. Mmh. Parce que les électeurs se sont rendus compte qu'elle n'était simplement pas au niveau d'être présidente de la République. Donc ils ont un vrai problème qui n'est pas résolvable aujourd'hui. Mmh. Et donc du coup, on parle de l'euro. Je dis pas que c'est pas un sujet, bien sûr, et que les Français ont peut-être eu un petit peu, enfin les électeurs du Front National ont peut-être eu un petit peu peur, mais je trouve que la ficelle est un peu grosse.
C'est Antoine Bueno, pour vous aujourd'hui, c'est un faux problème pour le Front National? Ça veut dire en gros, on essaye de se débarrasser aussi de Florent Philippot en prenant pour prétexte...
Moi je crois que le Front National a l'air d'aller mal et d'être dans la tourmente, ce qui est le cas de tout parti après un échec électoral, ça arrive à toutes les forces politiques, et que, alors qu'en réalité, structurellement, il est dans une situation qui est absolument formidable. Et les luttes auxquelles on assiste, c'est l'écume des vagues, c'est qui va prendre le contrôle de ce capital politique qui est colossal. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voté pour le Front National. Ensuite,
et qui ne se sont pas retrouvés aux législatives.
Et justement, si jamais ça se passe pas très bien pour le gouvernement actuel, qui a tout détruit au passage avec son arrivée, le Front National va être la seule alternative. Et en plus, on va lui donner un petit coup de pouce supplémentaire en injectant une dosette de proportionnel, comme Emmanuel Macron a déclaré vouloir le faire dans son discours sur la réforme des institutions. Ouais. Donc, il faut se battre, parce qu'il y a un gros gâteau à récupérer.
Donc, alors finalement, Cécilia Gabizon, pourtant, malgré tout, on sait qu'il va y avoir une convention, un séminaire à la fin du mois de juillet. Cette question de l'euro sera posée. Alors, justement, pour reprendre ce que disait Paul Quinio par rapport au débat, est-ce que le vrai problème, c'est l'euro, ou c'est les problèmes de Marine Le Pen, justement, à expliquer pourquoi la sortie de l'euro serait bénéfique, soi-disant, pour les Français?
Bon, à mon avis, c'est évidemment les deux. C'est-à-dire que, moi, je suis d'accord, Marine Le Pen a fait ce débat était calamiteux.
Donc, elle le paye encore pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes au mois de juillet, pour vous, c'est encore ça qu'elle paye.
Ah, mais complètement. Ça a été une révélation, et je pense que ça a été une révélation, évidemment, pour les électeurs, les gens qui ne sont pas électeurs du Front National. Là, tout d'un coup, en fait, quelque part, ça a rétabli le droit de juger et de dire ce qu'on pense du Front National pour tout le monde. Et pour les électeurs du Front National, je pense qu'avant, ils s'identifiaient, ils étaient les vrais gens versus les autres, les faux, etc. Et là, tout d'un coup, en fait, ils n'ont plus s'identifié à Marine Le Pen, ou plus difficilement. Pas tout le monde, bien sûr, mais plus difficilement. Après, sur l'euro, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. L'euro, c'est un peu technique comme question. Et donc, c'est toujours quelque part, ça suscite moins d'angoisse et c'est moins efficace, on va dire, que l'immigré. Ils ont agité comme ça des repoussoirs. Ah, c'est l'euro qui nous fait du mal. Mais ça marche moins bien dans leur logique. Ça marche moins bien que la peur de l'autre.
La peur de l'autre, ouais. Voilà, la peur de l'autre. D'ailleurs, Marine Le Pen, après le discours d'Edouard Philippe, est tout de suite revenue devant les caméras en parlant sécurité, immigration.
Oui, bien sûr, parce que c'est le fonds de commerce qui marche. C'est toujours ce qui a fait marcher notamment Jean-Marie Le Pen. Il a reproché d'ailleurs à sa fille d'avoir abandonné ce terrain, le terrain de l'immigration, la sécurité, l'islamisation, beaucoup chez eux, énormément chez eux, et puis l'identité nationale. Mais simplement sur ce terrain-là, quelle est la différence réelle, profonde, entre le programme de Marine Le Pen qu'on a vu à la présidentielle et puis les programmes des plus durs à droite, je veux dire, des programmes les plus durs des Républicains? C'est un terrain sur lequel ils se sont banalisés. Moi, je suis assez d'accord, il faut relativiser. Alors, il y a une baisse de forme très nette et très évidente de la être candidate de Marine Le Pen. Voilà. On l'avait déjà vu au régional, après les régionales, après la déception des régionales. Et là, on le voit de manière encore plus flagrante aujourd'hui. Mais sinon, je suis entièrement d'accord. Il faut pas oublier, ils ont fait 11 millions de voix, puis 7. Et ils ont 8 députés, ils en avaient 2. Et avec la proportionnelle, ils en auront beaucoup. Or, c'est un engagement. Juste une chose, quand même. Je pense qu'ils auraient tort d'abandonner l'euro d'un point de vue stratégique et tactique. Alors, c'est vrai qu'elle l'a très mal expliqué.
Abandonner l'idée de sortir de l'euro.
Parce que c'est, là encore, qui a fait prospérer le FN de Marine Le Pen? Bleu Marine, finalement, comme elle a dit, puisqu'elle avait déjà plus tellement le nom FN. Il n'y avait jamais le nom FN, ni même le patronyme Le Pen sur ses affiches. C'est la souveraineté nationale. En gros, c'était un petit peu le succès du Brexit, etc. Cette idée de protection. Et qu'est-ce qu'on a vu au deuxième tour de la présidentielle? On a quand même vu une réplique d'un référendum pour ou contre l'Europe, souverainisme ou pas, etc. Et donc, les idées de Philippot, malgré tout, elles peuvent structurer une partie de la droite populiste.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets, tout le monde aura le droit de s'exprimer sur ce sujet. On parlera également d'état d'urgence et de la situation des migrants, notamment à Paris avec le camp de La Chapelle. Voilà la suite du programme des Informés de France Info.
Je suis Johan, arboriculteur dans la Drôme. Vous cherchez de bons abricots bergerons français? Ils sont arrivés. Je les ai cultivés avec passion et avec toutes les forces de la nature. Car mes vergers sont éco-responsables. Ils préservent la biodiversité, les sols, les ressources en eau. Découvrez-les sur pêche-et-abricots-de-france.fr.
Vous savez que l'argent ne fait pas tout. Vous souhaitez juste qu'il en fasse plus.
La financière de l'échiquier prend soin de votre épargne. Parlez-en à votre conseiller. La financière de l'échiquier. Des valeurs à partager.
Dis, ferme tes yeux et imagine.
Vas-y.
Ce petit bijou de technologie.
Oui.
Le Samsung Galaxy S8.
Ah bah oui, j'imagine. Continue.
Avec 220 euros remboursés.
Waouh, très beau.
Et encore plus beau.
Oui.
100 euros de remise supplémentaire.
Alors là, c'est le rêve, hein.
Non, la réalité.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S8 avec un forfait sensation 20 gigas, profitez de 320 euros remboursés. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition conservant votre numéro et la reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
On surveille encore les orages ce soir et cette nuit entre le nord de la Seine et la Lorraine. Des orages parfois violents. Demain, un risque d'orage concernera encore les régions du nord-est. Quelques orages dès le matin. Ailleurs, du soleil. Un peu contrarié tout de même par la grisaille matinale vers le littoral du Languedoc-Roussillon, le Pays Basque, les côtes du nord-ouest. Mais ça ne durera pas. Il fera encore très chaud. Vigilance orange canicule pour le centre-est. Les températures vont rester très élevées cette nuit. 13 à 17 degrés sur le nord-ouest, mais 17 à 21 ailleurs. L'après-midi, ce sera étouffant dans le sud surtout. On respirera mieux vers la Manche, 23 degrés à Brest, 29 à Lille, à Perpignan, 32 degrés à Paris, Nantes ou Strasbourg, 35 à Bordeaux, à Marseille, 36 à Lyon. On ira jusqu'à 37 degrés à Montauban et Montélimar.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Nicolas Hulot a dévoilé à la mi-journée son plan climat. Il doit redessiner la stratégie de la France pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre et traduire en acte cette volonté. Le ministre de la Transition écologique annonce une aide pour l'accession aux véhicules moins polluants avec un objectif, la fin du diesel et de l'essence d'ici une vingtaine d'années.
Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Cet objectif a également été pris pour 2030 et pas 2040 par le président Modi indien. C'est un objectif évidemment qui est lourd, mais si nous n'avions pas une conscience aiguë, Elisabeth et moi, que nos propres constructeurs ont dans leur carton de quoi alimenter et incarner cette promesse, qui est aussi, comme l'ensemble de l'agenda climatique, un agenda de santé publique. Il faut quand même bien comprendre ça. C'est d'ailleurs par ce biais que les Chinois sont rentrés dans l'agenda climatique, parce que lutter contre le changement climatique, c'est aussi simultanément une manière de lutter contre la pollution, notamment atmosphérique, et ses conséquences tragiques.
Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Et puis en Norvège, les véhicules électriques ont franchi un nouveau cap au mois de juin, le mois dernier, donc en décrochant pour la première fois la plus grosse part de marché devant les véhicules à moteur diesel et essence. Le bras de fer autour des migrants de Calais se poursuit. L'État fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui lui enjoint de mettre en place des mesures d'aide. Les associations dénonce un entêtement. Le Parlement adopte par un vote à l'Assemblée une sixième et en principe une dernière prolongation de l'état d'urgence, cette fois jusqu'au 1er novembre prochain. Une nouvelle loi terroriste controversée devrait remplacer cet état d'urgence et pérenniser certaines mesures exceptionnelles. Près de 20 000 civils toujours pris au piège des combats acharnés qui se poursuivent à Mossoul entre les forces irakiennes soutenues par les États-Unis et les derniers djihadistes retranchés dans la vieille ville. Accrochage sévère également à Raqqa, le fief de l'État islamique en Syrie. Hambourg, en état de siège à la veille du sommet du G20 qui se tient demain et samedi, dans un contexte de fortes tensions sur les questions du climat et du commerce, sans compter le risque de débordement de manifestations altermondialistes dans la ville du nord de l'Allemagne. Des milliers de militants de gauche prévoient de manifester pendant tout ce sommet d'Hambourg. Et puis au lendemain de l'appel de Washington et Paris à de nouvelles sanctions contre Pyongyang, eh bien c'est Donald Trump qui promet à la Corée du Nord une réponse sévère après son tir de missile balistique intercontinental pour la première fois, capable en théorie de toucher les États-Unis. Les 20h33, les informés, suite et fin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, en matière d'actualité, sont plutôt cigales hein, que fourmis. Et on profite à gogo à croire qu'ils ont reçu des chèques actualité pour les vacances. Et ce soir, les informés de France Info, eh bien, nous trouvons Paul Quignot de l'Obs, également Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, Antoine Bueno, écrivain et auteur, Henri Vernet du Parisien. Aujourd'hui en France, nous étions en train de parler avant le journal du Front National, qui a peut-être une petite baisse de forme en ce moment, qui se tiraille notamment à propos de l'euro. On va juste terminer là-dessus. Paul Quignot, il y a quand même aussi une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, le Front National, sans Marine Le Pen, est-ce que ce serait possible? Est-ce que de ne plus avoir un Le Pen à la tête du FN, c'est possible?
Aujourd'hui, non. Et c'est précisément le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est le sujet qu'ils ne peuvent pas aborder aujourd'hui. Donc, c'est difficilement imaginable. Après, derrière la... Alors, je pense pas que le congrès de 2018 fasse qu'on bascule dans une ère post-Le Pen. Mais derrière la question de l'euro, au-delà du fond, parce que sur le fond, ils ont évidemment raison d'abandonner l'idée d'abandonner l'euro, puisque l'euro était plutôt... le retour aux francs, c'est évidemment une catastrophe. Mais je pense qu'il y a un enjeu politique derrière, c'est que pour briser le plafond de verre sur lequel le FN s'est encore heurté, ils ont besoin d'élargir. Et pour élargir, la question de l'euro, s'ils veulent attirer un certain nombre de... En fonction de ce qui se passera chez les Républicains, s'ils veulent pouvoir éventuellement se normaliser et passer des alliances ou en tout cas des accords avec un certain nombre de gens des Républicains, cette question-là est évidemment au cœur des discussions. Donc en abandonnant l'abandon de l'euro, ils ouvrent aussi une possibilité de discuter un petit peu plus avec des Républicains, enfin avec l'aile dure des Républicains.
Et c'est ça, Antoine Bouillon, on se souvient du discours de Marine Le Pen après le second tour de la présidentielle, elle avait dit qu'il faut élargir. Maintenant, tout simplement, est-ce que c'est possible justement d'aller...
Il faut élargir, mais ça c'est le discours et la réalité, c'est que le Front National a fait tout son fonds de commerce sur deux énormes mensonges. Bon, je m'avance un peu parce que c'est mon opinion. Le contrôle de l'immigration et la sortie de l'Europe, et en particulier de l'euro. Et ça me semble pour moi assez difficilement envisageable d'abandonner ces deux piliers du discours Front National. Et paradoxalement, je pense que la mauvaise prestation de Marine Le Pen, la remise en cause de Marine Le Pen est une très bonne nouvelle pour le Front National, parce que en même temps d'autres figures, d'autres personnalités, d'autres têtes ont émergé et du coup ça devient un parti comme les autres, un parti véritablement
qui a
crédible.
Émergé, qui a émergé
Marion Maréchal Le Pen.
Mais oui.
Il y a Marion qui a émergé. Il y a Nicolas Bay. Il y a
Ils sont pas aussi forts.
Il y a Florian Philippot. Non, mais il n'existait pas. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pignon sur média, qu'on connaît et qui montent en puissance. Et donc, ça devient un parti normal de gouvernement, quelque part.
C'est ça. Ils se sont véritablement normalisés maintenant, Sacha Guebuzon.
Oui. On les a entendus partout. Oui. On connaît
ça
plusieurs
tient pas
voix,
sur une personne.
Et on connaît en plus maintenant, je dirais qu'effectivement, ils se sont normalisés parce qu'ils ont plusieurs tendances. Ils ont des courants aussi, en quelque sorte. Donc,
ils ont même un frondeur, ces Jean-Marie Le Pen.
Ils ont en face d'eux parce que finalement, leur fantasme de l'UMPS s'est réalisé.
Exactement.
Ça s'appelle En Marche.
Exactement.
Et ça, c'est de manière affirmée. Ça, c'est, voilà. C'est-à-dire, ce n'est plus tabou de faire l'UMPS. En fait, ça a créé le grand front En Marche. Et donc, ça, à partir de ce moment-là, ils ont perdu aussi un fonds de commerce qui était « Regardez tous ces notes abonnés ». Mais donc, eux, ils sont en fait aussi en face. Et on entend maintenant des voix différentes. Moi, je pense que c'est Marion Maréchal Le Pen qui, à un moment donné, va revenir.
Ils ont un gros problème. Moi, je trouve, c'est que pour l'instant, le monopole en quelque sorte de l'opposition, il est beau, et notamment sur ce terrain-là, il est pris par France Insoumise. Or, Mélenchon a un discours. Alors, non pas, lui, il a jamais parlé de sortie de l'euro, mais quand on regarde son programme jusqu'au bout, c'est quasiment tout comme. Et en tout cas, c'est revenir à la souveraineté nationale. Encore une fois, c'est avoir une politique très dure contre Bruxelles. Donc là-dessus, ils ont un vrai problème. Et en ce moment, Mélenchon est en train de réussir plutôt son coup à la fois au sein de l'Assemblée et en dehors, puisqu'il occupe la rue. Et il apparaît comme je suis d'accord avec vous. Sur cette espèce de trou noir là, qui absorbe tout, qui est En Marche, mais celui qui apparaît contre, c'est bien davantage Mélenchon pour l'instant, et en tout cas dans une position radicale, que Marine Le Pen.
Pourquoi ? Parce qu'il a plus de députés, vous pensez, Henri ?
Bah oui, parce que du coup, il a plus de coffres. Oui, mais surtout parce qu'il est beaucoup plus. C'est un orateur. Elle a jamais été une grande oratrice.
Il
a une culture, il sait faire bouger les foules. Il a ça, Mélenchon. Mais juste une chose par rapport. Non, pour moi, le FN, c'est les courants, j'y crois pas une seconde. Ils ont déjà fait cet exercice du séminaire, etc. En réalité, le séminaire, à l'époque, Philippot et Marine Le Pen étaient encore totalement sur la même ligne, et ça s'est terminé par ils ont ratifié le truc et puis ils ont tout verrouillé, et c'est leur thèse qui a prévalu. Aujourd'hui, ils le sont plus, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le FN reste un parti patrimonial. C'est Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, sans doute demain Marion Maréchal Le Pen qui pourra dire mais attendez, moi je n'ai pas vécu que de la politique, puisque là elle fait une cure en quelque sorte d'autre chose, d'une vie un peu différente, mais ça reste comme ça. Là, l'extrême droite ne vit que par six parités, c'est-à-dire on se divise, on fait des chapelles, etc. Mais ceux qui partent, enfin il faut se souvenir de Maigret, l'aventure Maigret. Tout ça disparaît. Donc Philippot, oui, parce qu'il est une vraie structure, il pourra peut-être faire quelque chose en s'alliant justement, notamment sur ce fond du souverainisme. Mais sinon, pour l'instant, le FN, c'est Le Pen, et je pense pour un certain temps encore.
Et la mise en examen de Marine Le Pen, ça peut jouer justement en sa défaveur finalement. De nouveau, on se rend compte que c'est un parti aussi finalement qui fonctionne comme les autres.
Elle est clairement affaiblie. Et pour faire une synthèse de ce qui a été dit, ça peut être un parti qui en réalité demeure patrimonial, mais qui aux yeux de l'opinion publique n'apparaît plus telle. Et ça, c'est une force supplémentaire. C'est pour ça que si on fait la recension de tout ce qui structurellement va dans le sens et favorable au Front National, c'est colossal, à commencer par ce que Cécilia a dit. C'est vrai que la réalisation de l'UMPS, c'est un capital politique, mais colossal.
Oui. Une dernière chose, Paul Quignot, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, la droite peut en profiter éventuellement d'avoir sans élus, etc., profiter aujourd'hui de récupérer finalement peut-être les déçus de la droite qui était partie au Front National aujourd'hui, de les récupérer, si on voit qu'aujourd'hui quelqu'un comme Laurent Wauquiez par exemple pourrait prendre le parti des Républicains.
C'est pas l'impression que ça donne en ce moment. Je pense qu'ils ont un travail intellectuel à faire énorme avant de pouvoir réaliser ça. Un travail d'organisation. Donc peut-être, oui. Enfin, faut en politique les choses vont vite. Donc il faut aussi se méfier. Dans 5 ans, effectivement, bien sûr que si ça continue de cafouiller au Front National, ça dépend vraiment, parce que moi je pense qu'au Front National le vrai enjeu c'est la nièce. Si elle revient dans le jeu. C'est
là Marine Le Pen peut se rétablir aussi. Ouais.
Allez, on va dans un instant parler de l'état d'urgence, et on parlera également de la situation des migrants. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Nicolas Hulot présente son plan climat, objectif concrétiser l'engagement de la France dans l'accord de Paris. Le ministre de la Transition écologique annonce une série de mesures, dont la fin des véhicules diesel et essence en 2040. Une accélération nécessaire selon Pascal Canfin. Le directeur général de WWF France affirme sur France Info que ces mesures doivent permettre d'éviter, je cite, le chaos climatique. Alerte météo dans 8 départements du centre-est de la France. Vigilance orange canicule jusqu'à samedi matin. Dans l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. 7 autres départements sont sous surveillance en raison des risques d'orage, de l'Oise aux Ardennes en passant par le Pas-de-Calais. Forte chaleur dans le Var où la préfecture place 5 massifs forestiers en risque incendie très sévère. Après le massif des Morts, les massifs du Haut-Var, du Centre-Var, de la Sainte-Baume et de la Corniche des Morts. Interdiction d'accéder à ces massifs en plus de l'interdiction faite de fumer, d'allumer du feu ou encore de faire du camping sauvage. Des affrontements ont éclaté ce soir entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police à Hambourg en Allemagne. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Dans le cortège, plusieurs centaines de militants vêtus de noir. Le président américain Donald Trump vient d'arriver dans la ville allemande où doit se tenir un sommet du G20. Marcel Kittel remporte la sixième étape du Tour de France, la deuxième victoire de l'Allemand dans cette grande boucle. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, c'est donc la sixième et normalement dernière fois que sénateurs hier et députés aujourd'hui se sont réunis pour voter un texte symbolique, à savoir la prolongation de l'état d'urgence, mis en place après les attentats du 13 novembre 2015, sans arrêt prolongé, pratiquement levé il y a un an et surtout remis en place il y a près d'un an après l'attentat de Nice le 14 juillet. L'état d'urgence a beaucoup fait parler, inutile pour les associations de protection des droits, promues successivement par Bernard Cazeneuve, Mathias Fekl, Gérard Collomb, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, car il aurait permis d'empêcher d'autres attaques. L'état d'urgence devrait disparaître le 1er novembre, mais ces dispositions perduraient dans la future loi antiterroriste qui pourrait pérenniser quelques mesures exceptionnelles, mais tout le monde n'est pas pour. Certains sont même contre cette recondition parce qu'ils y étaient favorables auparavant. C'est assez complexe ? Eh ben oui, mais pas pour l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas.
C'est justement parce que j'ai proposé quand j'étais ministre de le prolonger que je dis aujourd'hui qu'il faut l'arrêter. Parce que l'état d'urgence était une réponse immédiate à un chaos. C'était après les tueries du Bataclan. On devait combattre une urgence. Le texte dit une menace imminente. Depuis, il s'est passé 18 mois. Depuis, le Parlement a travaillé beaucoup et nos lois ont été changées. Nos procureurs ont des moyens qu'ils n'avaient pas il y a 18 mois. C'est justement parce que je suis conscient du fait que l'opinion aujourd'hui n'entend pas ce discours que je veux le tenir. C'est une question de courage politique.
Voilà, Jean-Jacques Urvoas, c'est un peu complexe, comme
ouais, mais il a raison. Il a raison.
Pourquoi il a raison?
Mais parce que le fait d'être pour les mesures d'urgence de manière temporaire, personne aujourd'hui, enfin, c'est difficile aujourd'hui de dire d'être contre. On peut discuter d'un certain nombre de nuances, mais c'est difficilement audible. On sait qu'il y a des attentats qui ont été déjoués ces derniers temps. Donc, le fait d'inscrire de manière temporaire des mesures d'exception, voilà, moi j'y suis plutôt favorable, mais de faire en sorte, et l'enjeu là n'est pas sur la loi qui a été votée aujourd'hui, l'enjeu c'est le rendez-vous de septembre, et de faire rentrer dans le droit commun des mesures d'exception, il a raison Jean-Jacques Urvoas, c'est dangereux.
Ouais, c'est ça Antoine Baudon.
Non, alors moi je suis absolument pas d'accord, parce qu'il faut regarder les choses sans a priori, sans dogmatisme, et voir que quand on écoute les professionnels de la sécurité qui traquent en permanence, ils vous disent tous, quel que soit leur bord politique, d'ailleurs c'est même pas le sujet, qu'il leur manque des moyens. Ils ne peuvent pas être efficaces et il faut pas être parano, ils vont pas chercher à enquêter sur la voisine tel ou tel qui n'aurait évidemment, qui poserait pas de problème. Et donc ces moyens-là, évidemment il faut leur donner, peu importe que ce soit dans un régime d'exception ou dans un régime un petit peu plus pérenne.
Mais non, pas peu importe, je suis pas d'accord du tout.
Alors, on est obligé.
Et d'abord, et quand vous parliez de professionnels de la sécurité, Jean-Jacques Urvoas, c'est un professionnel de la sécurité, c'est une question qu'il connaît très bien. Il rêvait d'être ministre de l'Intérieur, il était ministre de la Justice, donc il connaît très bien ces questions-là. Mais je trouve que c'est le signe d'une, le signe d'une défaite idéologique. Ça veut dire qu'on considère que la bataille contre le terrorisme ne sera jamais gagnée et qu'on est obligé de s'adapter de manière permanente à cette menace. Il y a quand même derrière des enjeux de droit, de respect des libertés et qui sont les fondements de notre société à nous.
Cécile Guévison, cette histoire justement. État d'urgence donc qui s'arrêterait le 1er novembre. Donc si on passe en effet certaines dispositions exceptionnelles dans le droit commun, c'est quoi ? Il y a une petite hypocrisie en fait dessus ? C'est maquillé ?
Non, mais c'est des sujets hyper difficiles parce que personne ne veut prendre le risque de se dire, bah, c'est moi qui ai diminué, on va dire, ce qui sont présentés comme des instruments pour lutter contre le terrorisme. Et on peut pas faire l'essai. On peut pas se dire, bah, tiens, j'essaye et puis je vois ce qui se passe. Et on nous dit toujours, ah ben là, on en a déjoué 7, mais il y en a eu 2. Mais en fait, c'est des calculs impossibles. Donc, le moindre attentat est insoutenable. Alors, ça veut pas dire pour autant qu'il nous faut, ne plus faire que des mesures exceptionnelles. Mais par contre, j'en connais des professionnels de la sécurité, c'est qu'ils te disent, aujourd'hui, c'est plus très efficace. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est plus très efficace. Il y a eu de moins en moins de perquisitions. Et donc, c'est vrai que banaliser un arsenal extrêmement lourd qui a beaucoup de conséquences, c'est-à-dire qu'on peut pas être contre, parce qu'évidemment on veut arrêter le terrorisme, mais ça a beaucoup de conséquences. Ça a renchéri aussi, je donne un exemple pratique, ça a renchéri tout le coup de la culture, et ça a fait couler pas mal de festivals. Peut-être, on peut juger, mais c'est important aussi, ça veut dire que tout d'un coup dans une société, c'est aussi la façon dont on affecte ses moyens, qui sont aussi à réfléchir au global, même si personne ne pourra jamais prendre la responsabilité de se dire, ah ben moi j'ai baissé les moyens consacrés à la sécurité.
C'est ça, Henri Vernet.
Non mais je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire, c'est un sujet qui est devenu tellement sensible et tellement prégnant dans la vie des Français que évidemment il est délicat à manier pour les gouvernants. Et d'ailleurs, vous disiez que c'était pas très clair chez Urvoas. Moi, je trouve que c'était pas très clair du tout chez Macron non plus. Hein. Ouais. Lundi, dans son discours, il a quand même une phrase à Versailles, au Congrès, il a quand même une phrase extrêmement étonnante qui a été peu relevée. Il a dit « Je veux rendre leur liberté aux Français, donc je vais lever l'état d'urgence ». Mais ça veut dire quoi ? Enfin, lui, il était ministre quand il y a eu l'état d'urgence, donc il a participé, il était de ceux qui ont instauré cet état d'urgence et dire « Je vais rendre leur liberté aux Français ». Mais alors, certes, il va lever l'état d'urgence, on vient de le dire, en effet, il y aura cette loi ce projet de loi qui quasiment revient au même. Voilà. Sauf que le juge est quand même, il y a le retour du juge sur certains dispositifs et c'est quand même assez, c'est important.
Ouais,
parce que la présence du juge, c'est ce qui fait la différence entre un état de droit et un régime policier. Donc ça, c'est quand même important. Mais il n'empêche, c'est vrai, je suis d'accord avec Paul, c'est vrai qu'il y a quelque part une défaite idéologique, y compris chez Emmanuel Macron lui-même, qui, rappelez-vous, avait dit, lui, il avait prévenu qu'il ne légiférerait pas sur ce terrain-là. Et puis il y a eu Londres, il y a eu les Champs-Élysées juste avant son élection, etc. Et bon, on peut comprendre, les Français sont extrêmement sensibles à juste titre là-dessus, mais finalement il a fait comme les autres, il légifère avec cette petite ambiguïté, c'est que l'état d'urgence ou alors un régime quand même un petit peu malgré tout d'exception permanente, eh bien il y a une ambiguïté, c'est-à-dire que les mesures que vous employez, vous pouvez aussi, rappelez-vous, elles ont été utilisées contre des associations, enfin des militants écolo extrémistes,
oui,
d'accord,
ça,
mais pour la COP21, et que là vous avez des Mélenchon, vous avez des Besançon, etc., qui sont déjà en train de dire quand la rue se réveillera en septembre, quand on sera dans la rue contre la loi travail, qui nous dit qu'on ne sera pas victime de ces dispositions-là. Après tout, ça peut s'entendre. C'est un débat, c'est un
Antoine
vrai débat.
Bonneau,
puisque c'est un sujet sensible, il faut savoir exactement de quoi on parle. Il faut être extrêmement précis. Les dispositions en question, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de passer par l'autorité judiciaire. C'est le préfet qui peut ordonner des perquisitions administratives
dans
ou des gardes à vue dans le cas où un risque sérieux pour la sécurité. Non, là, ça, ce dont je parle, c'est ce qui va être traduit
dans la loi
antiterroriste. Alors, maintenant qu'on est clair sur de quoi on parle, bah personnellement, non, ça me choque pas, parce qu'effectivement, ça peut être extrêmement utile, et je vois mal ordonner des perquisitions administratives quand on n'est pas véritablement dans quelque chose qui est suspect. Et puis après, on peut faire des recours, d'ailleurs, contre ça.
Paul Quignot.
Encore une fois, il ne s'agit pas de dénier l'importance de donner plus de moyens aux policiers, à la justice, pour travailler sur ces sujets. Mais là, on parle d'inscrire dans le droit commun des mesures qui, jusqu'à présent, étaient présentées comme des mesures d'exception. Si on les présentait comme des mesures d'exception, c'est que bien que la situation était exceptionnelle. Donc ça veut dire qu'on considère que cette situation exceptionnelle, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera encore dans la même situation. Je trouve que c'est une défaite.
L'exception d'hier peut être la réalité quotidienne d'aujourd'hui.
Et pour le coup, Jacques Toubon, qui est quand même pas un gauchiste
façonné,
il est toujours de gauche quand même. Depuis, il a
chacun est dans son rôle.
Défenseur des droits, oui.
Il a quand même parlé de piège face à
néfaste pour la société.
Défenseur des droits, c'est son rôle. À la Ligue des droits de l'homme, c'est son rôle.
C'est pas parce que c'est son rôle que c'est pas crédible.
Mais non, mais
pas
parce qu'il faut bien comprendre qui parle. Urvoas, c'est aussi son rôle aujourd'hui.
Mais parler depuis sa chair,
précisément,
pas de dire des vérités.
C'est intéressant
pour
le sujet.
Pas tous ensemble, on ne peut pas.
Ce que je veux dire, c'est que il y a des prises de position politiques qui nécessitent d'ailleurs d'être dites, d'être données. Ce warning, pardon d'utiliser un terme anglais là-dessus, évidemment, il faut bien le dire, mais c'est par des institutions qui doivent le faire, et c'est pas pour ça qu'on est dans un détricotage des droits de l'homme et de nos libertés les plus fondamentales.
Allez, de toute façon, on continuera à en parler, bien sûr, de ce débat qui semble sans fin, de toute façon, qui nous anime depuis, un autre congrès, c'était le lendemain, c'était le 14 novembre 2015, voilà, on en parle, de cet état d'urgence. Et l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, affirme ce soir que chaque ministère va devoir participer à l'effort collectif pour réduire les dépenses publiques, même les ministères dits prioritaires. Gérald Darmanin annonce par ailleurs que le jour de carence en cas d'arrêt maladie sera bientôt rétabli dans la fonction publique. La police des polices saisie dans l'Essonne après l'interception d'un go-fast qui a mal tourné ce matin. Une fusillade sur la Nationale 20 qui aurait pu mettre d'autres automobilistes en danger. Les faits se sont produits en deux temps dans le secteur d'Arpajon. Deux policiers ont d'abord été percutés par le conducteur du véhicule qui transportait de la drogue. Il a poursuivi sa course pour aller percuter d'autres voitures avant d'être blessé à la jambe par les tirs des policiers. La mort d'un wingsuiter expérimenté ce soir à l'aiguille du Varan en Haute-Savoie, un Suisse de 30 ans, information France Bleu. Le wingsuit, c'est ce sport extrême qui consiste à sauter dans le vide, équipé d'une combinaison ailée. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne apportent leur soutien au plan d'action présenté en urgence par la Commission pour venir en aide à l'Italie. Rome est débordée par les arrivées de migrants sur ses côtes et multiplie les appels à l'aide. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans ce plan d'action, mais une conférence ministérielle est prévue le 24 juillet à Tunis. Gaël Monfils qualifié pour le troisième tour de Wimbledon. Le tennisman français écarte l'espoir britannique Kyle Edmund en 3-7. Qualification également du Serbe Novak Djokovic. Chez les dames, Kristina Mladenovic est éliminée dès le deuxième tour.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous avons terminé par parler du sujet des migrants. On va le développer plus longuement demain avec une large partie de l'émission qui sera consacrée. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a eu trois constats. En fait, il y a eu un constat en premier, celui d'Amnesty International, qui explique que si rien n'est fait, la Méditerranée pourrait devenir la route migratoire la plus dangereuse du monde avec ses enchaînements de naufrages. De l'autre côté, on l'a entendu dans le rappel des titres, l'Italie appelle à l'aide ses partenaires européens. Ses capacités d'accueil sont plus que dépassées. Et aujourd'hui, troisième point, c'est Anne Hidalgo, hein, la maire de Paris, confrontée à l'afflux. Autour du centre d'accueil du nord de Paris, 1500 personnes se sont installées autour, souhaiteraient, elles, une loi sur l'accueil des migrants afin de mieux les répartir sur le territoire. Paul Quignot, est-ce qu'une loi, c'est une chose face aujourd'hui à cet accueil, ce nécessaire pour l'accueil? Est-ce que c'est important aujourd'hui une loi? Ce principe de loi.
Je suis pas sûr qu'une loi soit importante. D'ailleurs, c'est assez curieux sur la méthode qu'Anne Hidalgo, qui n'est pas parlementaire, mette sur la table un quasi projet de loi. Même ça, c'est pour l'histoire de la forme, c'est pas très important. Sur le fond, elle a raison. Parce que si la situation est compliquée à Paris, c'est à cause de deux raisons principales à mes yeux. C'est la même raison, mais géographiquement différente. C'est-à-dire, c'est le manque de solidarité au niveau européen. C'est-à-dire que l'Europe sur ce sujet est incapable de se mettre d'accord. Et c'est quand même un problème. Et tant que les Hongrois, les Polonais, nous-mêmes, la France, on n'a pas assez ouvert nos portes au moment où il le fallait. Et donc, je trouve que là, il y a un vrai problème de solidarité européenne et nous de capacité d'accueil, ou en tout cas de volonté d'accueil. Et donc, cette volonté d'accueil, c'est là où Anne Hidalgo a raison, c'est que si elle est toute seule à le faire, elle a un mur face à elle. Et que, effectivement, il faudrait que ses homologues des grandes villes françaises fassent la même chose. C'est pas gagné.
Oui, c'est pas gagné tout
malheureusement.
En effet, c'est la guérison, mais au départ, sur le principe, en effet, d'une loi, ça veut dire que ça obligerait, ça serait plus simple, finalement, pour régler, justement, pour essayer une répartition.
Je trouve ça étrange, mais c'est peut-être aussi l'idée de dire, parce que c'est un problème qui date, enfin, maintenant, il y a pas mal d'années. Donc, c'est pour dire, finalement, on va pas faire des mesures. Parce que là, normalement, ils devaient passer, les migrants, quand ils viennent dans le centre d'accueil, là, à la chapelle, ils doivent passer un certain temps, et puis finalement, ils sont fixés là, leur cas n'est pas traité, etc. Donc, c'est pour dire, on va sortir de juste réglementer par décret, mesures, les centres, comment ça doit fonctionner, pour se dire, mais en fait, l'accueil du migrant, aujourd'hui, c'est en faire un vrai sujet de société, qui implique les ministères, et pas simplement le ministère de l'Intérieur. Parce que là, il y a deux acteurs là-dedans. Il y a les associations, quelque part, ou les villes, parfois, et le ministère de l'Intérieur. Donc, je pense qu'elle veut sortir de ce face-à-face pour en faire un sujet majeur, un peu d'ailleurs comme l'écologie quelque part, le fait de proposer une loi, c'est d'en faire un sujet majeur, parce qu'en vrai ça aussi ça va durer.
Bien sûr, qui touche tous les domaines de la société, Antoine Bonneau.
Je rappelle juste, parce que le contexte politique il a aussi son importance, Hidalgo, elle est pas très très copine d'après ce que je sais avec Emmanuel Macron,
Paris, ouais.
Voilà, elle est en danger à Paris, et donc de toute façon elle est frontalement opposée à lui politiquement. Mais sur le fond, elle a totalement raison, la vérité c'est qu'on ne veut pas de cette immigration depuis des décennies, et comme on n'en veut pas, eh bien on gère le phénomène avec déni. c'est-à-dire au fil de l'eau, sans se donner les moyens. Et qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Que c'est les pays qui, eux, veulent une immigration, qui, eux, sont capables d'organiser un accueil qui soit totalement global. Hein. C'est un accueil à la fois sur les plans linguistiques, culturels, de répartition. On a le même problème pour les mineurs étrangers isolés. Les départements réclament, c'est les collectivités qui réclament cette répartition. Donc oui, elle a 100 fois raison.
Et Henri Vernet,
pour vous ? Non, sur le fond, je suis d'accord. C'est qu'en effet, cette coordination, elle manque, elle est nécessaire. Il faut vraiment des objectifs. Il faut que chacun arrête de se renvoyer le dossier en est d'un ministère à l'autre, d'une association à l'autre, etc. Et là, encore une fois, on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence. Écoutez, l'autre jour, il y avait Emmanuel Macron qui dit il faut être bienveillant, il faut accueillir, il faut développer ça, l'accueil des migrants. Et quasiment le même jour, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb qui s'en prend aux associations. Donc on voit bien que ça manque de centralité, que ça manque d'une politique réellement définie. C'est vrai en France, c'est totalement vrai.
Il a fait pire, Emmanuel Macron, parce que justement, dans son discours, il a fait une distinction dont les professionnels savent très bien qu'elle n'a que très peu de sens en pratique, entre les véritables demandeurs d'asile, réfugiés, d'un côté, et de l'autre côté, les réfugiés économiques. On sait très bien qu'en pratique, c'est très difficile
de séparer. Mais tout à l'heure, on parlait de l'Europe sur l'environnement, et là, il faut bien dire aussi que cette espèce de désordre français, ça répond à un étalage de l'impuissance européenne, je veux dire, sommet après sommet, crise après crise. Or là, ce qui se passe, que vous disiez que l'état d'urgence, on en parle depuis 2 ans, mais le drame des migrants, on en parle depuis combien d'années? Et ce qu'on voit aujourd'hui avec Amnesty et les associations, mais c'est que ça devient plus grave que jamais quand on voit ce qui se passe sur les côtes libyennes, enfin au large des côtes libyennes, c'est quand même innommable.
Bien sûr.
Il faut arrêter de laisser agir comme ça des Libyens qui font, il faut être clair, hein, qui font quasiment couler les bateaux de migrants.
Bien sûr. Alors demain, j'imagine, on en parlera parce que bien sûr il y a un G20, vous le savez, et c'est un dossier d'ailleurs à l'ordre du G20, les informés de France Info. Ça doit se terminer pour ce soir. Merci beaucoup à Cécilia Gabizon d'être passée. Merci à Antoine Bueno, Paul Quignot, la une de l'Obs cette semaine.
Pas très original, mais essentiel. Simone Veil.
Simone Veil, bien sûr. Et la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Bah écoutez, c'est sur ce plan écologie, en disant l'idée, c'est de dire chiche, maintenant faites-le, quoi. Il faut le faire, il faut y aller.
À retrouver demain dans Le Parisien.